Bonjour à tous. Comme vous avez lu, en fait, le programme d'aujourd'hui, c'est un programme qui va essentiellement être axé sur la loi sur les ASBL et un projet de loi qui a été déposé depuis, d'ailleurs, je pense, le 5 octobre de cette année à l'Assemblée nationale, qui réglemente l'organisation des ONG, que ce soit ONG locale ou ONG internationale. Beaucoup d'ONG congolaises sont montées au créneau pour justement décrier ce qu'ils considèrent comme des mesures liberticides qui sont contenues dans cette proposition, dans ce projet de loi. Alors on va essayer de comprendre déjà qu'est-ce que dit cette loi et ensuite voir dans quelle mesure cette loi est liberticide et qu'est faire justement pour arriver à pouvoir justement jouer notre rôle en tant que société civile, en tant que journaliste et en tant que citoyen simplement. Pour ce faire, on avait prévu pour le café de presse d'aujourd'hui 4 panélistes. Les premiers qu'on a invités, c'est les ministres, justement, puisque la loi, ce projet, c'est un projet qui émane du ministre de la Justice, Alexis Thambo Mamba, qui a promis d'être là. On va attendre. S'il vient, tant mieux, sinon on va continuer. Puis il y a Maître Georges Kapiamba de l'Association pour l'accès à la justice à Cage. Et donc, à côté de moi, j'ai également quelqu'un qui a suivi d'un bout à l'autre le processus, qui continue à partir au plaidoyer pour arriver non seulement à pouvoir diminuer l'impact de cette loi au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi à faire en sorte que l'on puisse avoir un cadre légal qui permet justement à certaines libertés de pouvoir exister dans notre jeune démocratie. Donc nous avons le secrétaire général du Conseil national des ONG, M. Rigaud, que je vous prie d'écouter. Il va nous faire d'abord l'économie de la loi et ensuite, par les jeux de questions et réponses, on va essayer de comprendre en fait quelles sont les principales lignes qui aujourd'hui constituent ce que nous considérons, ce que la société civile considère comme un danger pour la démocratie. Vous avez la parole.
Merci. Bonjour tout le monde. Je crois que d'abord, je tiens à remercier les organisateurs. Je veux vous parler, pas en tant que juriste, mais en tant que bénéficiaire de la loi. Parce que je suis, comme il a dit tout à l'heure, le secrétaire général du Conseil national des ONG de développement. Donc, en tant que tel, nous sommes parmi les bénéficiaires de la loi qui est visé aujourd'hui en termes de modifications qu'on voudrait apporter. Et nous étions parmi les premières organisations qui avaient commencé à lancer l'alerte citoyenne pour dire qu'il y avait un danger. Et nous allons voir par rapport à notre compréhension où se situe le danger. Parce qu'en fait, nous estimons que chaque fois qu'on prend une loi, c'est pour essayer d'améliorer. Et comme nous sommes en démocratie, il est important que les consommateurs de la loi soient écoutés pour savoir quelles sont les faiblesses ou quelles sont les forces de la loi. En quoi la loi permet à ce que les acteurs qui en sont les bénéficiaires puissent agir efficacement. Alors, quelles sont les modifications que le projet introduit? D'abord, les premières modifications interviennent au niveau de l'exposé des motifs. C'est là que le problème commence. Mais la motivation telle que présentée n'évoque même pas la contribution, ne fait pas allusion à une quelconque contribution des ASBL. On commence déjà par présenter le problème comme les ASBL amènent la subversion, troublent l'ordre public, et quand vous lisez, vous trouverez dans les documents, ils évoquent une affaire de 3000, ils ont conduit une enquête sur un échantillon de 3500 et quelques ASBL. Mais malheureusement, même sur cet échantillon-là, on ne dit pas sur cet échantillon-là, combien d'organisations sont jugées subversives, entre guillemets. Nous mettons ça entre guillemets parce que nous ne savons pas exactement c'est quoi. Ce que nous avons relevé en termes d'observation, si je peux récapituler de manière générale, la première impression qui se dégage de ce projet de loi, c'est qu'il semble être motivé par les soucis de phagocyter le mouvement associatif. Et en sus de ce qui précède, il apparaît qu'une intention claire de réduire au silence les ASBL, et surtout si vous n'allez pas dans le sens de validation des thèses officielles. L'impression que ça donne, c'est comme on veut il faut que tout le monde soit à laquelle elle est. Et ce qu'on dit, nous ne sommes là uniquement pour valider les thèses. Non. Nous sommes des parties prenantes au développement du pays et nous avons un point de vue à émettre. Parce que c'est des chocs des idées que jaillit la lumière. Mais on ne vient pas seulement parce qu'on a dit, voici ce que vous devez faire, et sans analyser les tenants et les aboutissants, essayer de peser les pour et les contre d'une disposition qu'on prend, ça constitue un problème. Ça, c'est pas bon. Et le projet ne fait aucune allusion au rôle des ASBL dans un pays. Et même par rapport à tous les instruments au niveau international. Et ici, je crois que même par rapport avec l'Union européenne, nous avons les accords de Cotonou. Mais les accords de Cotonou insistent sur les ASBL en tant que partie prenante. Et puisque nous parlons de la gouvernance, mais les ASBL font partie des éléments qui travaillent pour que la gouvernance avance. Alors, et nous constatons que le projet consacre un retour regrettable à l'ère de la pensée unique. Or, nous savons que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est aussi et surtout par rapport à cette façon de voir des choses, de croire que ce que le responsable a dit, c'est ça la parole d'évangile. Non. Et nous savons très bien que, généralement en politique, les positions sont assorties de beaucoup de sentiments politiques. Alors, l'imprécision générale plane sur les conditions de radiation ou toute autre interdiction d'exercer. Donc, il suffit qu'on se réveille. Nous avons lu tout à l'heure. On vous dit, vous avez l'autorisation provisoire. Et puis après, puisque c'est un point de vue qui ne nous arrange pas, et on vous retire cette autorisation provisoire. Et alors, ce que nous regrettons aussi, c'est que les motivations telles que relevées collent une certaine image d'adversaire aux ASBL. Donc les ASBL sont fichés comme étant des adversaires. Et pourtant, toutes les dispositions officielles reconnaissent les ASBL comme étant des acteurs qui apportent leur contribution. C'est vrai que le développement du pays, c'est de la responsabilité du gouvernement, mais les ASBL ont une contribution qu'ils apportent. Et en plus, ce qui est triste aussi, c'est que dans le projet, aucune allusion n'est faite aux droits et aux facilités que peuvent bénéficier les ASBL. La loi n'en fait pas allusion, le projet. Donc c'est comme si nous n'avons que des obligations, mais nous n'avons pas de droits. Mais en tant qu'ASBL et partie prenante au développement du pays, nous devons aussi avoir des droits et des facilités que nous devons bénéficier. Donc bref, ce projet de loi-là, si on le laisse passer dans l'état dans lequel il se trouve, constitue un recul. Ça ne nous avance pas, ça n'apporte pas une amélioration. Au contraire, par ce temps qui court, ça va créer inutilement des conflits. Le pays a besoin de la paix, mais il ne faut pas que par ce temps qui court, qu'on ait des lois qui nous fassent reculer de plusieurs années au lieu de nous faire avancer. Et surtout que, à son temps, il y avait des propositions d'amélioration de la loi qu'on avait introduite et on a sollicité plusieurs fois pour qu'on en prenne compte et qu'on s'assoie autour d'une table pour en discuter. Ça ne venait pas. Mais maintenant, brusquement, dans un contexte où presque toutes les institutions sont hors mandat et ont une légitimité provisoire, c'est à ce moment-là qu'on vient chercher à prendre des mesures. Mais nous, déjà, nous lisons à travers les textes et les intentions que ce sont des mesures qui veulent consacrer une certaine dictature. On vous impose des positions. Et ça, les associations que nous sommes, nous ne sommes pas prêts à accepter ça. Et c'est comme ça que nous avions pris les initiatives qu'on avait prises pour que nous exigions le retrait pur et simple de ce projet-là. Et le moment venu, on y reviendra pour que les choses se fassent en bonne et due forme. Parce que le contexte n'était pas approprié pour apporter... C'était à la fois inopportun. Et puis même, on peut même dire impertinent pour faire ça maintenant. Voilà, là nous avons parlé en tant que bénéficiaires de la loi. Parce que c'est nous qui en profitons tous les jours et nous avons analysé, nous voyons que ça ne vient pas nous faciliter le travail, au contraire ça vient nous compliquer le travail. Je dis merci beaucoup.
Oui, vous êtes bénéficiaire. Quelle action vous menez justement pour contrecarrer l'avancée de cette loi à votre niveau, au niveau de votre plateforme?
Je crois que la première action que nous avions menée, dès que nous étions au courant, nous sommes allés rapidement pour obtenir la copie de la loi. Parce que pour réagir, il faut bien connaître qu'est-ce qui est mis dans les textes. Et une fois que nous avons mis la main sur l'exemplaire, et l'exemplaire officiel tel que déposé, nous avons mis une équipe technique en place pour parcourir les modifications que demandait le ministre. Et nous avons examiné, nous avons à la suite produit une alerte citoyenne que nous avons balancée pour sensibiliser l'opinion, pour dire attention, il y a danger. Et après, nous avons convoqué une grande réunion de la société civile et on s'est retrouvé près d'une centaine d'organisations et nous avions demandé à chaque organisation de se prendre en charge. Et on s'est retrouvé, on a fait une analyse détaillé, et puis après, nous avions publié cette position que nous avons rendue publique, et la presse était là, et nous avons par la suite élaboré un plan de plaidoyer et de lobbying, parce que en fait, nous connaissons les acteurs en présence. Quand ils vous disent, non mais la loi est jugée recevable, la loi a été jugée recevable, à l'Assemblée. Mais est-ce que c'est ça qui ouvre la voie à une adoption dans des conditions de la proposition telle qu'elle se présente? Nous nous disons non. Elle peut avoir été jugée recevable. Mais nous connaissons comment l'Assemblée se comporte. Dans un premier temps, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une certaine dose d'activisme parce qu'en fait, ça nécessitait la peine. Surtout dans le contexte qui est le nôtre, il ne faut pas demeurer seulement dans le plaidoyer, mais il faut de temps en temps une certaine dose d'activisme pour réveiller les consciences et pour que ceux qui veulent avancer s'arrêtent. Mais ce qui était bon, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps d'examiner pendant la session qui s'était terminée. Et maintenant, comme il y a, vous êtes informés, il y a la session extraordinaire. Et là, il faut renforcer la vigilance pour que le travail se poursuive.
Est-ce que vous-même, vous ne constatez pas un certain affairisme dans les secteurs de la société civile? Est-ce qu'il n'y en a pas parmi vous, en tout cas, qui rentrent dans la société civile pour justement essayer de tirer des gains qui peuvent être, on va dire, matériels, mais parfois politiques aussi? Parfois, c'est un peu compliqué de... Quand vous parlez, souvent, on se pose beaucoup de questions. Qui est derrière vous? Pour beaucoup d'autres organisations, en tout cas, quand on suit, on se pose aussi beaucoup de questions. Est-ce qu'en interne, vous n'avez pas non plus pensé à pouvoir identifier également certains ONG et pouvoir assainir à votre niveau avant que l'État ne puisse intervenir?
Bon, je crois que ça c'est un faux problème. Quand on dit non, tel, il y a ceci, vous n'avez qu'à regarder, est-ce que les discours correspondent aux actes? En fait, pour nous, ce qui nous concerne, en tant que Conseil national des ONG de développement, nous avons une charte et nous avons un code de conduite. Et c'est clair dans le code, un acteur de la société civile, membre du réseau, qui veut devenir un acteur politique actif, il cesse d'être membre de son organisation. Et il y a un procès verbal clairement établi, qui constate sa sortie. Donc il devient un acteur politique et en tant que tel, il est libre. Parce qu'il n'est pas interdit à quelqu'un d'aller faire de la politique active. Chacun est libre. Mais une fois que vous avez fait le choix, vous devez franchir la ligne. Et puis, vous agissez en tant que tel. Et on vous reconnaît en tant qu'acteur politique actif. Mais ceux qui prétendent être à la fois ici et là-bas, mais si réellement ils sont à la fois ici et de l'autre côté, mais ce sont leurs amis, mais pourquoi ils se plaignent? Si ils ont reçu mandat pour venir perturber le travail, mais ça, nous savons, nous, on s'est réunis avec ceux qui défendent les principes qui sont les nôtres, le travail. Nous disons que c'est notre tâche, c'est être acteur de la société civile. Le jour où je décide de cesser d'être acteur de la société civile, je le fais en bonne et due forme et je cesse d'agir en tant que tel.
Est-ce qu'il y a eu des cas d'ONG qui ont été débarqués de votre plateforme parce que justement vous n'avez pas vu clair dans leurs objectifs?
D'abord, je vais vous donner une indication. Chaque fois qu'il y a les élections au niveau national, tous les acteurs qui veulent s'engager dans un parti politique, qui veulent aller en tant que candidat de tel ou tel autre parti politique, une fois qu'on a sorti la liste des candidats retenus, nous tirons la copie de cette liste-là. Nous essayons de checker la liste pour voir qui des acteurs, parce que tu peux te faire le malin, tu dis, bon, je ne signale pas, je vais d'abord, si ça ne marche pas, je vais revenir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous prenons la liste, on passe en revue, on regarde, il y a tel acteur qui se retrouve, mais qui n'a pas signalé. Et on sort la décision. Et la décision est validée par l'Assemblée générale quand elle s'est réunie. Et c'est tout.
On a eu les cas, on a eu la présentation faite par les bénéficiaires. Maintenant, on va prendre également les aspects plus juridiques de la loi qui vont nous être présentés par Maître Georges Kapambia, comme vous le savez, qui est le coordinateur de l'association pour l'accès à la justice à Cage. Vous avez été parmi les personnes qui ont pris la parole pour dénoncer, on va dire, les contenus de cette loi. On a eu l'avis, on va dire, des bénéficiaires de la loi. Maintenant, on voudrait bien savoir aujourd'hui, pour vous qui avez également lu la loi, quels sont les aspects qui, pour vous, vous semblent beaucoup plus, on va dire, nocifs à la démocratie congolaise. Et quels sont, on va dire, juridiquement, comment on peut contrecarrer cette loi. Merci.
Merci beaucoup, cher ami patient. Brièvement, j'ai pensé revenir sur des points les plus importants. Je crois que mon collègue doit avoir déjà brossé certains aspects. Nous avons réélu cette loi. Nous l'avons analysée sous plusieurs aspects, notamment juridiques, politiques aussi. Mais je peux vous dire qu'il s'agit d'une réforme très très dangereuse, et les liberticides. Lorsque vous prenez la proposition, d'abord elle intervient pendant une période de transition décrétée par l'accord de la Saint-Sylvestre, et selon cet accord, il est prévu que les institutions de la transition vont avoir comme tâche exclusivement relatives aux réformes qui ont une incidence directe sur l'organisation des élections. Donc sur le plan de l'opportunité même de la réforme et aussi du contexte politique, elle ne pouvait pas être initiée par le ministre de la Justice. Donc il a violé l'esprit et la lettre même de l'accord, d'autant plus que le fonctionnement des ONG, des ASBL, des établissements publics, d'utilité publique, n'ont aucune incidence pour le moment avec l'organisation des élections. Deuxièmement, nous avons retenu au moins trois points qui sont importants dans cette loi. Nous avons d'abord l'exposé des motifs. Lorsque vous lisez l'exposé des motifs, j'avais vu les messages que les patients m'avaient envoyés, ils ont essayé de résumer, mais j'ajoute juste deux éléments importants que vous pouvez retenir. C'est que d'abord, il est fait mention dans l'exposé des motifs d'une enquête conjointe qui aurait été menée par le secrétariat général du ministère de la Justice, par l'Agence nationale des renseignements et par le cabinet du ministre de la Justice. Personnellement, peut-être vous, d'autres ou d'autres collègues des autres ONG, on n'a jamais été saisi ou invité à un entretien quelconque en rapport avec le fonctionnement des ASBL, qui pouvait au moins rentrer dans ces rapports, c'est-à-dire recueillir le point de vue des acteurs opérationnels de terrain que nous sommes. On ne peut pas faire mener un rapport, une enquête, comme c'est vanté dans cet exposé des motifs, mais sans pour autant parler avec les acteurs opérationnels. C'est quel genre de rapport? Quel genre d'enquête? Donc, en réalité, on s'est rendu compte tout simplement que c'est le fruit du travail de filature que les ONG, les ASBL, les établissements d'utilité publique qui sont étiquetés comme dérangeant la politique du gouvernement, et c'est ça qu'on présente comme rapport. Et le rapport lui-même, même la copie, n'a jamais été transmis à l'Assemblée nationale. Ils ont envoyé tout simplement ça, et aucun commentaire sur ces rapports. L'unique commentaire qui est fait, c'est quoi? Une conclusion qui prétend qu'il existerait 3569 ASBL des droits congolais et des droits étrangers qui sont dépourvus de personnalité juridique. Voilà les faits. On veut justifier parce que pour engager une réforme, il faut avoir des raisons. Il faut des faits. Il faut des éléments qui peuvent justifier et on trouve ça, on avance ça comme un des éléments pour justifier la réforme. Deuxième élément qui est avancé comme raison pour soutenir, on dit qu'il faut arriver à supprimer l'ambivalence entre les ministères, c'est-à-dire les ministères qui en charge les activités de l'ONG, comme par exemple pour les ONG de défense des droits de l'homme comme la CAJ, nous sommes censés être sous la tutelle du ministère des droits humains. Les ASBL qui travaillent par exemple dans les domaines socio-économiques ou de l'agriculture, ils savent que c'est le ministre de l'agriculture. Les autres qui font par exemple la sensibilisation sur les questions liées à l'assainissement ou questions de santé, ministère de la santé. Alors, la loi, l'ancienne que nous avons jusqu'à ce jour, a prévu que lorsque vous créez une ASBL, un établissement d'utilité publique, vous devez soumettre les dossiers auprès du ministère qui a les activités rentrant dans votre mandat pour étude, analyse, et c'est ce ministère qui, en réalité, agrée. Pourquoi? Parce que c'est ce ministère qui est, sur le plan technique, approprié, qui a les capacités pour s'assurer de vos propres capacités à accomplir votre objet social. Alors, maintenant, le ministre de la Justice lui dit qu'il faut supprimer parce qu'il dit que c'est une ambivalence dans la mesure où, à la fois, c'est ce ministère qui accorde l'avis favorable, qui, au terme de la loi, les articles 3 et 5 de l'ancienne loi, cette autorisation, cet avis vaut autorisation de fonctionnement provisoire. Et que par la suite, la loi dit à l'article 5 qu'il faut déposer les dossiers et que le ministre de la Justice, lorsque vous déposez les dossiers, c'est juste pour analyser et vous octroyer la personnalité juridique. Et il considère qu'il s'agit d'une situation qu'il faut arriver à supprimer parce que ça crée une sorte de dédoublement fonctionnel. Troisième raison, c'est que il considère que, qui est d'ailleurs double, il considère qu'il y aurait des abus. Il y aurait des activités subversives menées par certaines organisations ou leurs animateurs, notamment en recevant des financements illicites, et qu'il faut combattre cela. Voilà tout ce qu'il y a comme raison, sans oublier le fait qu'il dit, il considère qu'il faut sanctionner, parce que si on ne sanctionne pas, l'État ne sera pas l'État gendarme. Comme pour dire, il n'y a que les ministres de la justice qui représente l'État. Alors, au vu de ça, quel est notre point de vue? D'abord, par rapport à la première raison, c'est sans aucun fondement, aucune pertinence. Pourquoi? Parce que même s'il était établi qu'il existerait 3569 ASBL, ce n'est pas du faute de ces ASBL. Pourquoi? Parce que la loi elle-même avait déjà réglé. Et les collègues savent ici que cette loi a été le résultat d'un combat, d'un long combat des acteurs de la société civile, parce que du temps déjà de Mobutu et lorsque l'AFDL est entrée, il était difficile de s'organiser en association. Il fallait faire beaucoup de gymnastique, il y a eu beaucoup d'ONG qui avaient déposé les dossiers mais qui n'étaient jamais traités. Il fallait trouver une solution. Beaucoup d'abus et ça faisait même développer les pratiques de corruption. Il faut corrompre pour qu'on puisse vous octroyer la personnalité juridique. Qui en soi, la personnalité juridique est facultative. Mais la loi a voulu la rendre au moins des droits, de plein droit. Je disais qu'elle est facultative. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la personnalité juridique qui rend l'association capable pour exercer ses actes. C'est la raison pour laquelle déjà les articles 3 et 5 ont considéré qu'à partir du moment où le ministère qui a en charge les activités de votre domaine vous accorde l'avis conforme, cet avis vaut autorisation de fonctionnement et l'ASBL doit commencer déjà à travailler, à fonctionner. En attendant, la personnalité qui, elle, vient vous ajouter juste une capacité juridique pour poser les actes juridiques. Les actes juridiques que vous pouvez poser principalement dans les domaines judiciaires. Lorsque vous voulez engager des actions en justice, vous devez être en mesure de prouver que vous avez déjà reçu cette personnalité juridique. Mais même sans cela, vous pouvez toujours poser les actes. Donc, c'est ça la volonté des articles 3 et 5. Donc, s'il y a eu des dossiers de ces 3569 non traités, c'est de la faute, de la responsabilité du ministre de la Justice. Parce que la loi lui dit que lorsque vous recevez les dossiers d'une ASBL, vous avez 6 mois. La loi a dit, pour éviter, d'ailleurs c'était ça la raison d'être de cette disposition, pour éviter les abus connus enregistrés dans le passé, dans les 6 mois, si vous ne traitez pas les dossiers, parce que le traitement des dossiers peut déboucher soit par le rejet du dossier, mais qui doit être motivé, soit par l'acceptation et vous accorder directement la personnalité juridique. Et la loi ajoute pour dire, si au bout de 6 mois, le ministre n'a pas répondu, de la justice n'a pas répondu ni par un rejet, ni par vous accorder la personnalité juridique, elle vous est censée être accordée de plein droit. C'est pour couper court. C'est ça qui les dérange. Donc, à notre avis, il n'existe pas une seule ASBL qui est dépourvue de personnalité juridique, qu'elle soit des droits congolais ou des droits étrangers. C'est de part déjà la volonté de la loi. Nous avons déjà eu à le lui dire plusieurs fois en disant, ça c'est un raisonnement qui ne peut pas être tenu par un juriste. Je suis désolé de le dire, que ça puisse revenir, même dans une motivation de la loi. Donc nous rejetons ça, ça ne doit pas se tenir debout et ces ONG ne peuvent même pas se considérer comme dépourvues de cette personnalité juridique. De deux, nous avons constaté qu'ils ont mêlé l'ANR, ce qui est extrêmement grave, parce que ce ne sont pas là les attributions de l'ANR. De pouvoir enquêter sur les organisations de la société civile, ce ne sont que des facteurs d'atteinte à la liberté d'association. S'agissant de ce qu'ils appellent l'ambivalence, mais nous disons tout simplement il ne revient pas au ministre de la Justice de penser avoir plus de capacités pour traiter les dossiers d'une organisation qui va exercer les activités dans le domaine de la santé mieux que le ministère de la Santé lui-même. Pourquoi vouloir faire remplacer l'avis favorable qui vaut autorisation provisoire pendant les délais de 6 mois par ce que lui appelle un silence qui vaut rejet. Ça veut dire lorsque vous déposez, si au bout de 3 mois vous n'avez pas de réponse, il faut considérer qu'on a rejeté votre dossier. Ça, ce sont des facteurs de la dictature. Et c'est vouloir maintenant faire du chantage aux ONG pour dire, attention, si vous ne faites pas de démarches, pendant autant de temps, considérez-vous comme n'existant pas. Donc nous sommes contre cette modification qu'il vise. Et il y a ce qu'il appelle, il introduit dans la loi le pouvoir d'appréciation pour modifier les articles 11 et 64 de l'ancienne loi qui disent tout simplement que lorsque une ASBL organise une assemblée générale et procède aux changements ou modifications principalement liés aux acteurs, aux membres de la direction d'administration, vous avez l'obligation de déposer votre procès verbal dans les mois qui suivent. Et le ministre de la Justice doit prendre acte. Donc, la rédaction actuelle, c'est dire il prend tout simplement acte du dépôt. Ça suffit. Mais qu'est-ce que lui voudrait faire? Il dit qu'il faudrait remplacer ça par le pouvoir d'appréciation. En d'autres termes, lorsque vous vous réunissez, vous êtes une ONG, un établissement d'utilité publique, vous décidez de remplacer un coordonnateur et tous les membres ou la majorité décident, vous avez le procès verbal, vous déposez. Si la tête de celui-là ne le plaît pas, il va vous dire « je ne prends pas acte ». Ça veut dire que cette décision n'entrera jamais en vigueur. Et vous trouvez ça normal? Quelle atteinte même à la démocratie interne à une organisation. Donc en réalité, ça veut dire que c'est le gouvernement finalement qui va commencer à impulser même le changement des cadres au niveau des associations. Les jours où vous avez des problèmes, si l'un de vous a des relations avec un membre du gouvernement, c'est fini, trafic d'influence, vous déposez le procès verbal, on le rejette, on vous oblige de mettre quelqu'un d'autre. Donc, intrusion. Il n'y a plus d'indépendance. Et il y a aussi ce qu'ils appellent les actes subversifs, j'ai parlé de ça, qui sont en soi quoi? Qui sont définis comme le fait de critiquer les institutions et leur fonctionnement. Le fait de critiquer les institutions et le fonctionnement de la République constitue un acte pouvant fonder les ministres de la Justice à prononcer la dissolution de l'ASBL. Donc, il veut s'octroyer le pouvoir d'ordonner la mort d'une personne morale des droits civils comme une association. Et pourtant, nous savons que le pouvoir de décider et d'administrer des sanctions contre une personne physique ou une personne morale relève de par la Constitution de la seule compétence des cours et tribunaux. Donc, nous disons que là, il y a tentative à vouloir s'accaparer des pouvoirs des autres, c'est anticonstitutionnel. Et je voulais mentionner aussi la question des déclarations de finances. Lorsque vous montez, vous créez une association avec un financement où vous avez déjà les moyens qui dans leur valeur vénale, sont de l'équivalent de plus ou moins 5 000 $, vous devez faire la déclaration. Dans les 8 jours, dépasser les 8 jours, si vous n'avez pas fait, le ministre de la Justice va prendre une décision, un arrêté, vous ordonnant la dissolution de cette association. Il en est de même aussi de l'obligation à toutes les ONG nationales ou étrangères installées à faire la déclaration de tous les financements qu'ils reçoivent et dans les rapports annuels, ils doivent expliquer en détail à quoi ils ont affecté les 10 financements. Envoyer une copie au ministre de la Justice et au ministre de Finances. Et enfin, il y a cette question qui revient encore dans cette proposition de loi de la part du ministre de la Justice. Il dit que lorsque les associations ou les ASBL des droits étrangers doivent s'installer en République démocratique du Congo, on ne peut plus leur accorder l'autorisation pour un délai dépassant 3 mois. Et c'est le Premier ministre qui doit l'accorder par décret. Et au bout de chaque 3 mois, elles ont l'obligation de demander les renouvellements. Et que pendant que le renouvellement, la demande est en cours, vous ne pouvez poser aucun acte. Vous imaginez. Donc, en réalité, pour nous, nous considérons qu'il s'agit d'une réforme non pertinente parce qu'intervenant dans un contexte politique dont nous connaissons tous, où le gouvernement n'a d'autres obligations de par l'accord que de s'atteler aux réformes liées à l'organisation des élections. De deux, nous disons à ce jour qu'il n'y a aucun fait pouvant justifier cette réforme, d'autant plus que les enquêtes vantées ici n'ont jamais impliqué les acteurs opérationnels. Et à notre avis, nous pensons que s'il y a une réforme à faire, il faut engager tout le monde de manière à ce que ça soit participatif et ce n'est pas pendant cette période. Et enfin, en réalité, il vise tout simplement à sanctionner certains, comme l'ami l'a dit, certaines ONG, certaines ASBL, leurs membres qui sont considérés aujourd'hui comme menant des activités subversives. Donc nous devons la rejeter et nous avons à toutes les reprises demandé à l'Assemblée nationale, aux députés, de pouvoir rejeter cette réforme. Ça sera aider notre République. Je vous remercie.
Merci beaucoup. On va prendre des questions. Vous présentez votre nom, votre organisation et posez votre question.
Merci. Mon nom est Chris Elongo. Je suis journaliste de B1 et du média en ligne, du site d'information en ligne Casinfo. Nous savons tous que quand les projets de loi arrivent là où ça arrive, ils ont la possibilité de forcing pour que ça passe. On a vu avec la loi électorale tout ce qui a été fait comme pression des élus de l'opposition jusqu'à suivre ça au niveau du Sénat qui a adopté une autre et la même loi qui était même pour tout le monde. Beaucoup de monde ont dit, beaucoup de sources nous ont même donné des infos que c'était pas la même la loi qui a été présentée au Conseil des ministres, mais c'était une autre projet de loi qui a été présenté à l'Assemblée nationale et le président a promulgué finalement ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Donc, moi je me dis, même si on parle ici, même si on discute, même si on tapotait, même si on clochait, je me pose la question, si c'est vraiment décidé cette leur manière qu'on sait que cette loi passe et que ça sera passé, ça va passer, j'en suis presque sûr, et les actions que vous allez prendre, ça sera des plaidoyers jusqu'où où vous allez changer carrément. Merci.
La question finalement, ce que vous faites là, est-ce que c'est une... C'est pas un coup d'épée dans l'eau, finalement, puisqu'on a vu avec la loi électorale. Et sinon, que faire pour ne pas tomber dans ça?
Monsieur Mario Ambongo Kanakine Télévision. Je vous ai suivi au début, là. Vous avez dit que vous avez aussi des propositions à faire, mais malheureusement, vous n'avez pas été contacté par les autorités. Quelles sont ces propositions à vous que vous avez proposées?
Kazadi, pour les comptes de la RTVS 1. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous connaissons tous comment cette république fonctionne. Je ne vais pas aller dans le sens de mon ami Christian. D'abord, à l'Assemblée nationale, c'est la majorité au pouvoir qui dicte les lois et qui fait tout ce qu'ils veulent. Tout ce qui va se passer là-bas, c'est ce que ces gens-là qui gouvernent veulent. Mais vous aussi, vous êtes aussi au courant de tout ça. Pourquoi ne pas mener tout simplement des mouvements de pression? Parce que dans notre pays, si vous voulez aller dans le sens que vous comptez, ça ne marchera pas, nous le savons tous très bien. Depuis qu'on vous a présenté la loi, est-ce que vous avez déjà allé voir le ministre lui-même pour parler avec? Sinon, qu'est-ce que vous attendez?
Merci beaucoup. Je m'appelle Godfrey, l'ambassade de Grande-Bretagne. Après vos analyses, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce projet de loi qu'on peut retenir? en tant que bénéficiaire dont vous faites partie. Alors, maître, vous avez parlé des 3 mois pour les ONG internationales. Je voudrais, j'ai pas bien saisi les détails. Je voudrais peut-être que vous, s'il y a moyen que vous reveniez là-dessus. Merci.
Je m'appelle Jérôme Néhéma. Je suis membre d'un collectif citoyen. Oui, ma question est celle de savoir, par rapport à la réforme qui a été proposée actuellement sur les délais concernant la personnalité juridique et les avis techniques, comparé à la loi actuelle, est-ce qu'il y a un critérium qui est donné justement aux demandeurs, à ceux qui veulent créer ces associations-là? Est-ce qu'on leur remet quand même un critère pour justifier du refus ou du rejet de l'acceptation de leur soit personnalité juridique, soit de l'avis technique? Et en cas de refus, est-ce que les demandeurs peuvent recourir à la justice et auprès de quel organe peuvent-ils se recourir justement pour contrecarrer une décision qu'ils pourraient estimer être arbitraire, si d'autant est qu'il n'y a pas de critères publics bien qui soient établis pour tout le monde?
Christian Chabantou, Afruel Magazine. Je voulais savoir, est-ce que les ONG comptent faire par exemple des grèves générales? Peut-être à Kinshasa, on peut sentir l'action du gouvernement, mais lorsque vous entrez dans les provinces, vous vous rendez compte que sans les ONG, il n'y a pratiquement pas de vie. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des grèves générales pour essayer de faire pousser les choses?
Faire un Tumba, c'est pour le compte de CMBDJ. Si cette proposition arrivait à aboutir, qu'adviendra-t-il de ces ONG qui, si c'est avéré qu'ils n'ont pas de personnalité juridique?
Junior Kalongi, du collectif citoyen lésé. Tout à l'heure, le premier intervenant a dit qu'il y avait des groupes de lobby. J'aimerais juste savoir, est-ce que ce sont des groupes qui sont réellement puissants, efficaces? Les lobbies sont réellement effectifs ou c'est juste des moyens de... je dirais, les ONG sont simplement des tremplins pour accéder à certaines fonctions et notoriété politique?
C'est Roberto Ponti, Mediaspol. On a évoqué la Constitution de la République et l'article 37 parle clairement de la liberté d'association. Or, le fait que la loi est contre la liberté de l'association des citoyens congolais, alors comment se situe dans le cadre d'une juridique? Parce que je pense que c'est le premier point qu'il faut prendre pour faire pression et derrière les députés, il y a toujours les conseillers juridiques qui travaillent. Bon, je ne pense pas qu'ils peuvent nier ce qui est écrit dans la Constitution.
Merci. Merci beaucoup. Dommage que le ministre ne soit pas là, encore moins son représentant. Ça aurait été encore plus enrichissant. Monsieur Kapiamba, qui répondez-vous déjà au ministre de la Communication et des Médias qui, vous, personnellement, vous pose des questions ou carrément vous taxe comme étant un agent soit de la communauté internationale, entre guillemets, soit de personnalité politique comme Moïse Katumbi? Parce qu'en parlant justement des questions liées au financement, il faut dire quand même qu'il y a un flou autour du financement de certaines ONG. On va pas peut-être les citer par ici, mais vous avez plusieurs fois été cité vous-même. Mais vous ne pensez pas qu'il y a comme une sorte d'opacité justement dans les financements de certains ONG, certaines ONG surtout sur le plan national, qui sont pratiquement constitués, comme l'a dit le ministre, je prends ces mots, on va dire la caisse de résonance de certaines organisations internationales, mais aussi de certains hommes politiques.
Par rapport à cette question, je crois qu'elle revient assez souvent. Je dois être sincère avec vous que j'en ai déjà parlé, même avec le vice-premier ministre Chadari lui-même qui m'a dit que selon les informations de leur service de sécurité, je dis bien leurs services parce que ce ne sont pas des services publics, ça, que nous recevrions, c'est-à-dire la CAJ, nous recevrions beaucoup d'argent en euros pour financer les activités, notamment des mouvements citoyens. Alors, j'ai dit au vice-ministre, j'ai dit, mais parce que vous dites que c'est ça la raison d'être pour faire la réforme, est-ce que vous pouvez, pour des raisons de sérieux de vous-même, de votre gouvernement et de notre peuple, prendre, sortir même les extraits bancaires pouvant établir ce que vous dites? J'avais posé la même question au vice-ministre. J'ai dit, mais j'aimerais que vous me brandissiez ces extraits bancaires de ces millions que nous recevons et de la manière et puis à qui nous avons donné tout ça. Alors, bref, c'est le même discours qui est entretenu par le ministre Mende. Vous savez, la vérité, c'est que Nous sommes dans un pays où les mensonges sont devenus le mode de gestion des affaires publiques. Je l'ai lui ai dit. On doit cesser de faire la politique de gérer les affaires de l'État sur base des mensonges. Lorsque vous avez un service de sécurité qui vous fait un faux rapport, comme celui-là, et que vous vous rendez à l'évidence que c'est faux, il faut sanctionner ces gens. Il s'agit des allégations mensongères. Vous savez, je sais qu'ils se sont, ils avaient décidé d'agir, mais ils n'ont jamais eu d'éléments. Ils allaient être ridicules. J'ai dit au même au vice-ministre, j'ai dit, mais vous avez la justice, saisissez la justice. Comme ça, on fait une enquête en bonne et due forme. Par contre, c'est nous qui avons beaucoup de choses à leur reprocher. Parce que nous considérons d'abord qu'eux n'ont aucun droit de chercher à savoir ce que nous faisons des 10 000 euros que nous pouvons recevoir d'un bailleur de fonds pour nos activités. Parce que ces 10 000 euros, nous rendons compte à nos assemblées générales, nous faisons jouer notre démocratie interne, et puis nous rendons compte à nos bailleurs, avec les audits qui sont effectués, qui, eux, à leur tour, rendent aussi compte à leurs contribuables. Ce n'est pas l'argent de l'État congolais. S'il y a des faits, à un moment donné, constaté que l'argent a été utilisé pour financer des activités criminelles, mais la justice est là. Actionner la justice pour enquêter.
Ok, merci. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont trompés comme ça sur la perception qu'on se fait d'une population. Il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents dans l'histoire parce qu'ils croyaient qu'en face, il y avait une population faible et qui ne comprenait rien de tout ce qu'il y a qu'on mangeait. Et quand on s'enferme dans cette logique-là, les sorts, on les connaît. Mais pour qui on gouverne? On gouverne pour soi-même? Ou bien réellement, celui qu'on appelle le souverain primaire, on est à son écoute. Alors, quand on rentre dans la logique de la gouvernance, par mépris, parce que là, dans les questions que vous posez, on sent que dans les chefs de ceux qui sont supposés être les représentants du peuple, malheureusement, qui sont devenus les représentants de leur parti. On sent qu'ils sont dans la logique du mépris. Et bon, ils sont députés, ils font ce que veut la consigne du parti, c'est très bien. Mais s'il y a eu un début, il y a eu une fin. Et quand viendra la fin, vous risquez de croire que ça va être comme la même chose. Donc, nous n'allons pas nous résigner pour dire que, non, puisqu'ils sont tout puissants, ils ont toujours fait comme ça, et nous, on ne fera rien. Non. Justement, connaissant les acteurs en présence, connaissant leur façon de faire, nous n'avons pas commencé par les plaidoyers, nous avions commencé par l'activisme, ce que nous avions fait tout au début. On est passé sur RFI, parce que c'est pour qu'ils nous écoutent, il faut qu'ils entendent qu'on parle sur RFI. Et à 4h30, il est tourmenté parce qu'il apprend ça le matin, que les gens, les associations refusent de cette loi-là. Et après, ils sont sortis, eux aussi, pour venir. C'est-à-dire, on a été écoutés. Donc, nous n'allons pas baisser les bras. La lutte continue, elle est longue, mais elle finira par aboutir. Donc ça, c'est vraiment, vous devez vous tranquilliser. Moi, je me dis qu'il n'y a pas un cycle sans fin. Chaque cycle a sa fin. Et ça va venir. Alors, Mario parlait de projet. Quelles sont les propositions que vous aviez? En fait, il faut se rappeler qu'il y avait un projet que nous avions exécuté à son temps qui s'appelait la promotion de la liberté d'association. C'était en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer. Je crois que certains parmi vous doivent connaître. On a travaillé sur la loi c'était sur la liberté d'association. Le projet était, en fait, focus sur la liberté d'association. Et les parties prenantes qui étaient impliquées dans ce projet, il y avait la police, il y avait l'armée, il y avait l'administration du territoire et aussi les ASBL. Et au bout, on avait même suggéré des modifications pour améliorer la loi, pour que les acteurs puissent continuer à agir, mais efficacement encore. Après, ce projet-là a été récupéré par le projet ANE de l'Union européenne, toujours. Et on l'a amélioré encore, parce qu'il existe des projets déjà améliorés avec la participation de bénéficiaires de la loi. Mais ici, pendant tout ce temps-là, le ministère n'était pas intéressé à ces propositions-là. Mais brusquement, au regard du contexte qui est le nôtre, bon, puisque il faut avoir la main sur tous les acteurs qui sont encore actifs, on estime que les ASBL risquent de nous poser des problèmes. Alors, nous devons avoir la maîtrise de tout le monde. Il faut faire taire les associations. Et nous considérons que ça, c'est une mauvaise motivation. Et quand les motivations sont mauvaises, vous connaissez la suite. Donc, on ne peut pas avancer avec cette façon de percevoir les choses. Mais je crois que la presse est d'une importance capitale dans l'accompagnement de ce travail-là. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Je crois que tout le débat et toute la mobilisation qui a eu jusque-là, c'était justement pour dire qu'il n'y a rien de positif. Voilà. Je crois que Maître va compléter s'il y a des choses à compléter.
Oui. De positif, je crois que mon collègue l'a mentionné, il n'y en a pas. Il n'y a rien de positif parce que cette réforme consacre un recul et le pays, notre pays, n'en a plus besoin et ça, ce n'est pas compatible avec l'esprit et la lettre de notre constitution actuelle, qui a consacré un système démocratique avec le droit d'expression, soit individuel ou à travers certaines structures comme les associations. Par rapport à la question de 3 mois, ah, mais c'est très très dangereux. Au fait, ils modifient, ils intègrent des dispositions, notamment l'article 30 ter. D'abord, quand vous prenez 30 bis, c'est des nouvelles dispositions, il est dit, il est interdit aux associations étrangères d'exercer une activité politique. Voilà déjà comment. On ne définit pas ce que c'est une activité politique. Sous peine d'interdiction d'exercer leurs activités, en République démocratique du Congo, les associations étrangères ne peuvent solliciter, recevoir, accepter ou agréer des dons, présents, subsides, offres, promesses ou tout autre moyen d'un pays étranger qu'après avoir préalablement informé le Premier ministre. Voilà. Donc, on veut tout simplement bloquer leurs activités. Vous voulez avoir un financement pour vos activités à Kananga? Sollicitez d'abord l'autorisation. Mais pendant ce temps-là, vous ne faites rien. Vous devez attendre. Parce que si entre-temps vous recevez et que vous n'avez pas eu l'autorisation du Premier ministre, on va prononcer votre dissolution. Et ils ajoutent que aucune association étrangère ne peut avoir des établissements en RDC qu'en vertu d'une autorisation distincte pour chacun de ces établissements. Critérium. Oui, ici, ils ont modifié, ajouté, ils n'ont rien ajouté de nouveau en ce qui concerne les critériums, c'est-à-dire les conditions. Les conditions restent les mêmes qui sont prévues déjà dans la loi de 2001. Rien, rien de nouveau, rien. Alors, s'il y a refus, que faire? S'il y a refus, parce que la loi elle-même, sa proposition voudrait dire que, dit dans l'exposé des motifs, mais il faut considérer que les refus là, est un acte administratif, donc il faut aller en justice, il faut aller au Conseil d'État. Conseil d'État, c'est-à-dire aujourd'hui c'est la Cour suprême, mais vous savez comment ça fonctionne. Et qui a la main sur ça? Vous avez vu dernièrement la lettre qu'il a écrite à la Cour constitutionnelle. Dans quels termes? Est-ce qu'on peut faire une grève générale? C'est parmi les actions qui peuvent être envisagées. Pourquoi pas? Pouvons envisager même des manifestations, pourquoi pas si ça continue. Alors, quid de l'avenir de 3569, s'il arrivait que la loi soit adoptée? Mais c'est une crainte, parce que dans leur esprit, quand ils mentionnent dans l'exposé des motifs qu'il existe 3569 sans personnalité juridique, tout en sachant que la loi, articles 3 et 5, disent que dépasser 6 mois, ces ONG ont déjà la personnalité juridique par la volonté de la loi. Mais c'est incompréhensible que ces gens donnent l'impression de ne rien comprendre finalement. Mais nous lisons la même loi où c'est différent. C'est la mauvaise foi. Il n'y a plus d'organisation dépourvue de personnalité juridique. Elles les ont déjà par la volonté de la loi. Ce n'est pas de leur faute. Et je vous informe qu'il y a un principe de droit. J'avais dit ça à Tambo lui-même, qui dit que les citoyens ne peuvent pas payer les conséquences négatives du dysfonctionnement des services publics. Toute réforme a toujours les deux aspects, juridiques et politiques. Donc, nous leur disons, il n'y a aucun problème politique, ni problème social qui se pose aujourd'hui. Je félicite aussi Internews, parce qu'avec ce qu'on fait ici, ça nous permet davantage d'échanger. Merci. Merci
infiniment. Et ça sera par ces mots qu'on va clôturer justement la session d'aujourd'hui. L'objectif de Café de Presse, justement, c'est de permettre de pouvoir échanger sur des questions qui nous unissent, des questions sur les droits de l'homme, des questions sur les différentes libertés. Merci à nos invités et merci infiniment également à vous tous qui avez accepté de venir. Merci et ce sera la fin.